Radio Okapi.
Il est midi juste à Kinshasa, 13h à Bukavu, au sud Kivu. Voici les titres de ce journal. Remise ce mercredi 28 février de la base de la Monisco Kamagnola au sud Kivu au gouvernement congolais. C'est dans le cadre du processus de désengagement de la mission onusienne dans cette province. La nouvelle société civile du territoire du Diofa dénonce la montée de la criminalité constatée ces derniers temps dans cette quantité. Son coordonnateur fait savoir que c'est notamment à cause des conflits de pouvoir coutumiers, mais aussi des conflits fonciers. L'invité de ce journal est le directeur scientifique de l'OVG, l'Observatoire volcanologique de Goma. Charles Balagizi parle de la sécurisation du matériel de surveillance des volcans installés dans différents quartiers et qui sont souvent vandalisés par des inciviques. Notez d'abord qu'après Luanda, le président de la République est arrivé ce mercredi matin à Bruxelles, la capitale belge, pour une visite officielle. Aussitôt arrivé, il a été reçu par le premier ministre du Royaume de Belgique, Alexandre De Croo. Le tête-à-tête entre les deux hommes d'État a porté sur la coopération bilatérale, les sujets d'intérêt commun et la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé la présidence de la République. Les relations avec l'Union européenne ont été également au cœur des échanges entre les deux hommes d'État. En effet, la Belgique exerce pour 6 mois la présidence tournante du Conseil européen. Pour l'heure, rien n'a filtré de leurs échanges. Direction Sud Kivu, pour commencer ce journal, remise ce mercredi de la base Monisco Kamagnola au gouvernement congolais. Ceci s'inscrit dans le cadre du processus de désengagement de la Monisco dans la province du Sud Kivu. Une délégation des Nations Unies et gouvernement congolais conduite par la chef de la Monisco et le gouverneur ad intérim du Sud Kivu est sur place à Kamagnola, dans les territoires des Walungu pour la circonstance. Reportage sur place de Rachel Kessembangou.
C'est aujourd'hui que la MONUSCO remet sa base jusque-là occupée par les casques bleus pakistanais. La MONUSCO est présente dans la cité de Kamagnola depuis 19 ans. Et cela à travers les contingents pakistanais et indonésiens pour la protection des civils. Cette base est constituée des maisons préfabriquées, d'une usine d'eau, des lits, des équipements et d'autres matériels. Y ont pris part Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, le gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malago, le commissaire général adjoint en charge de l'appui et gestion de la PNC, général Bosco Kalinga, et bien d'autres autorités provinciales et onusiennes. Ce camp sera occupé dorénavant par les unités d'intervention de la PNC pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Cette remise intervient dans le cadre du désengagement de la MONUSCO de la province du Sud Kivu. De Kamagnola, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
En rapport avec cette cérémonie, la population de Kamagnola dit prendre acte du désengagement de la MONUSCO de leur contrée. Le chef de groupement de Kamagnola reconnaît la bonne collaboration qu'il y a eu entre les casques bleus de l'ONU et la population locale. François Migabo est au micro de Rachel Kessembangou.
Je dirais que la cohabitation a été vraiment très étroite, elle a été très bonne. Nous avions bien collaboré vraiment avec les contingents, que ce soit les Pakistanais ou les Indonésiens. Nous avions bien collaboré avec eux. Mais aujourd'hui, nous assistons tous à la cérémonie de la fermeture de la base de la MONUSCO Kamagnola. Nous espérons que avec nos services avec qui ils ont fait la remise, ils vont bien aussi faire leur mission. Nous espérons qu'ils vont travailler pour le compte de la population tel que le faisaient aussi les partenaires de la MONUSCO. Personnellement, j'ai été fier de notre collaboration avec les contingents qui étaient basés au niveau de Kamagnola.
Au nord Kivu, deux quartiers de l'agglomération de Bambo, en chefferie de Bouito dans les territoires des Rutshuru, sont vidés depuis 3 jours de leurs habitants sur instruction des rebelles du M23. Il s'agit notamment des quartiers Makengele et Lubango, indiquent quelques notables locaux. Ces derniers affirment que la situation est survenue après une embuscade tendue dans la zone contre une patrouille des rebelles. Des détails avec Bernard Denyangui.
C'est depuis dimanche après-midi que les deux quartiers, Lubango et Makengele, ont été vidés de leur population, estimée à environ 500 ménages, indiquent nos sources locales. Elles affirment que, sur instruction des rebelles du 23, ces populations ont été transférées vers la localité de Bugina, dans le groupement voisin de Tongo, et d'autres vers le sud de l'agglomération de Bambo, chef-lieu du groupement du même nom. Nos sources ajoutent que les deux quartiers sont riverains d'une position stratégique des rebelles. Le transfert de ces populations aurait coïncidé avec une embuscade étendue par les présumés combattants locaux contre une patrouille des rebelles venue de cette position dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Jusque ce mercredi, tout accès à ces deux quartiers reste strictement interdit, disent nos sources, qui déplorent ce déplacement forcé des populations. Ces dernières vivraient désormais sans assistance et sans autre moyen de survie. Le pire est qu'elles ne peuvent plus accéder à leurs biens situés dans les deux quartiers évacués. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, dans les territoires de Kabe à Kamwanga, 49 000 personnes vivant dans les aires de santé de Mpanda, Lukula, Kenakuna et de Kabe à Kamwanga reçoivent depuis lundi dernier une assistance en cash pour subvenir à leurs besoins primaires. Cette activité rentre dans le cadre du projet multisectoriel de nutrition et santé financé par la Banque mondiale et exécuté par un consortium de trois agences du système des Nations Unies, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les fonds des Nations Unies pour l'enfance et le programme alimentaire mondial. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis lundi dernier qu'une forte délégation du Programme alimentaire mondial remet une assistance en cash estimée à 39 000 francs congolais par bénéficiaire. Au total, 49 000 personnes des 4 aires de santé du territoire de Kabeakamwanga sont concernées par cette assistance. Les sources proches du projet indiquent que ces fonds permettent aux bénéficiaires de protéger les paquets de semences qui leur seront distribués par la FAO pour assurer leur sécurité alimentaire. Martin Moulumba, bénéficiaire de Kenankuna.
Une période de carglage. Si je reçois cet argent-là, je vais engager les personnes qui peuvent m'aider afin de cargler, de planter des maïs, des haricots. Il y a aussi des pistaches.
Pour Marine Biya, cet argent devient un fonds de démarrage d'une activité génératrice de revenus.
Avec cet argent, j'ai eu l'occasion de commencer un petit commerce ici et je reçois quelques bénéfices qui m'aident à vivre avec ma famille ensemble.
Signalons que le projet multisectoriel de nutrition et santé est un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale à hauteur de près de 15 millions de dollars et exécuté pendant 9 mois dans les territoires de Kabeakamwanga et Tshilenge par trois agences du système des Nations Unies. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
En bref, le journaliste Stanny Boudjakera reste en prison. Sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée hier par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. En détention préventive depuis le 8 septembre dernier, le confrère de Jeune Afrique et Actualité.cd est poursuivi pour des infractions présumées de propagation des faux bruits et falsification d'issue de l'ANR, l'Agence nationale des renseignements, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Chérubin Okende, ancien ministre des Transports et porte-parole du parti de l'opposition Ensemble pour la République. Depuis lors, l'enquête sur ce crime piétine et les journalistes attendent toujours d'être jugés pour des faits dont il ne cesse de clamer son innocence. Plusieurs fois, ces demandes de liberté provisoire sont rejetées sans motif valable, d'après ses avocats. Et puis, la nouvelle société civile du territoire d'Idiofa dénonce la montée de la criminalité ces derniers temps dans cette entité. Son coordonnateur fait savoir que depuis le début de cette année, au moins trois personnes ont été tuées par des jeunes gens dans trois secteurs différents. D'après lui, ces actes sont posés notamment à cause des conflits de pouvoirs coutumiers, mais aussi des conflits fonciers. Arsène Kassiama déplore cette criminalité dans les chefs des jeunes gens et les appelle à abandonner ce genre de pratiques. Irène Boma pour plus de détails.
Parmi ces trois cas de meurtre par justice populaire enregistrés dans les territoires du Djofa, le tout dernier cas en date, c'est celui intervenu mercredi dernier à Kalo, situé dans le secteur portant le même nom, où un agent de l'ANR a été sauvagement lapidé par les jeunes gens. Arsène Kassiama est le coordonnateur de la nouvelle société civile du Djofa.
Depuis le début de l'année 2024, trois décès déjà. L'un dans le secteur Mosanga, dans le village Mibambi, l'autre à Kalo et l'autre encore encore là dans le secteur 16. Et la cause, c'est le conflit du pouvoir coutumier, le conflit foncier. Il y a les féticheurs qui vont dire que c'est un tel qui a posé tel acte et les jeunes gens vont agir. Le dernier cas, il y avait un féticheur qui aurait désigné que la mort de telle personne, c'est un tel qui est à la base. C'est cet agent-là de l'ANER qu'on avait lapidé.
Cet acteur de la société civile appelle les jeunes gens de cette entité à cesser avec ces actes de violence qu'ils condamnent.
Éliminer nos frères comme des moutons, ce n'est pas bien. Qu'ils cessent avec cette pratique qui n'honore pas notre pays.
La même source pense que l'affectation des juges dans les instances judiciaires du Diofa pourra stopper tant soit peu cette montée de la criminalité dans ces coins de la province du Kwilu. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans les Olomami, la ville de Kamina et ses environs sont toujours plongés dans le noir depuis plusieurs mois. Les turbines de la centrale de Kiloubi qui les alimentent sont en panne. Sur place, les conséquences socio-économiques obligent la population locale à solliciter l'implication des autorités pour qu'une solution soit trouvée dans le meilleur délai. Jean Gandou pour les détails.
L'espoir des habitants de Kamina de voir les ampoules allumées s'effrite au fur et à mesure que les jours passent. Les pièces défectueuses de la centrale de Kiloubi, envoyées aux ateliers centraux de Panda à Likasi pour réparation et fabrication, ne sont toujours pas de retour. Sur place à Kamina, les conséquences se font déjà sentir. L'eau ne coule pas des robinets et les vivres frais sont rarissimes sur les marchés. Ceux qui les ont les vendent à un prix exorbitant. Les opérateurs économiques qui le peuvent recourent aux groupes électrogènes et autres panneaux solaires juste pour l'éclairage. Ce n'est pas tout. D'après certaines sources, la conservation des corps à la morgue pose problème. Outre les frais administratifs, les familles éprouvées sont obligées d'amener aussi les bidons de 20 litres de carburant, notamment le mazout. Cette information n'est pas encore confirmée par les sources de l'hôpital. Le responsable de la SNEL à Kamina demande à la population de prendre son mal en patience car les pièces attendues des ateliers centraux de la Jekamine Panda à Likasi seront disponibles au cours de ce premier semestre. A noter que la centrale de Kiloubi date de 1954. Et depuis lors, elle n'a jamais été modernisée. Et toutes ces trois turbines sont en panne. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au sud Kivu, 7 élèves d'une école secondaire du territoire de Kabare sont morts sous la pluie hier après-midi. Alors que les victimes sortaient de l'école, elles ont été surprises par la décharge électrique naturelle sous la forte pluie, faisant ainsi des morts et des blessés. Le gouvernement provincial du sud Kivu dit apporter assistance aux familles affectées. Des détails avec Emmanuel et la Mesua Kabedi.
Mercredi 27 février 2024, en début d'après-midi, une dizaine d'élèves de l'école Kalagane de Mumosho quittent l'école sous la menace de la pluie. Alors que la pluie s'aggrave, ils s'abritent dans une des salles de classe de la même école Kalagane. C'est là qu'ils seront surpris par la décharge électrique naturelle faisant 6 morts sur place et des blessés graves. L'administrateur de Kabare indique qu'un autre décès est survenu à l'hôpital. Joseph Chirumwengoma.
Les enfants l'école venait de finir, mais ceux de l'école secondaire et ceux de l'école primaire, ils ont été surpris par la foudre, où il y a eu sur les champs 6 morts, 4 filles de l'école primaire, une fille de l'école secondaire et un garçon de l'école secondaire. Donc je venais d'apprendre qu'il y a parmi ceux qui ont été à l'hôpital, il y a quelqu'un qui est décédé.
Le gouvernement provincial du Sud Kivu dit apporter tout son soutien à toutes les familles affectées. La mort par foudre est un phénomène rare dans ces milieux du Sud Kivu. Les experts regrettent que les antifoudres métalliques qui avaient été placés en ces endroits aient été détruits. Mais ils conseillent la culture des bambous qui joue le rôle des antifoudres. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au Congo central, 9 sur les 36 députés provinciaux élus et proclamés provisoirement par la CENI ont renoncé à leur siège à l'Assemblée provinciale. Cette information a été livrée par le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Congo central à l'issue d'une séance plénière présidée par le président de ce bureau, Thomas Yobila. Une commission spéciale et temporaire chargée de vérifier les dossiers des suppléants dont les députés ont renoncé à leur pouvoir a été mise en place séance tenante. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Les 9 députés provinciaux ayant renoncé à leur siège à l'Assemblée provinciale du Congo central sont l'élu de Matadi Bandundungi Digui, actuel gouverneur de province, celui de Mwanda Matumpa Buka Marcel, gouverneur de province intérimaire honoraire, celui de Kasangulu Boudimbu Tombouanga Didier, ministre national des hydrocarbures sortant, Matoume Nazola, Mukoko Kinavui Didier, Ngudianza Bayoki Sanefertiti, Nsumbu Mutukala Vopierre, Samba Situ Edouard, ainsi que Wame Sokwalolo Ki-André, directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge de l'Ecofin. Dès le vendredi prochain, ces derniers seront remplacés par leur premier suppléant. Une commission spéciale et temporaire a été mise en place au cours de cette plénière pour étudier les dossiers de ces derniers. La dite commission pilotée par les députés Landou Mukoyo a deux jours pour des travaux à dater de ce vendredi 27 février. Selon le président du bureau provisoire, le député Yobi Labanzenza Thomas, les rapports de la commission est attendu le vendredi 1er mars par la plénière en vue de son adoption. Plusieurs sources affirment que ces députés provinciaux renonciateurs seront candidats aux élections soit sénatoriales, soit de gouverneurs. Cependant, jusqu'à présent, seul Didier Boudimbou, ministre national des hydrocarbures sortant, a déjà déposé sa candidature parmi eux tous. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
La nouvelle dynamique de la société civile dans la province du Maniema dénonce de nouvelles affectations collectives du personnel du secteur de la santé par le gouverneur intérimaire Afani Idrissa. Selon son président, cette décision de l'autorité provinciale viole la décision du directeur de cabinet du président de la République du 20 février dernier, interdisant les recrutements, les nominations, les promotions et tout mouvement du personnel à tous les niveaux. On écoute Maître Michel Yuma Kasonda dans ses propos recueillis par par Florence Kizalunga.
Il y a des instructions qui ont été données pour qu'il n'y ait pas les mouvements à tous les niveaux. Mais dans notre province, le gouverneur de province n'a pas pu observer ces instructions. Il a signé des commissions d'affectation dans les domaines sanitaires. En date du 23, nous avons vu qu'il a retiré aussi certaines commissions d'affectation et il a laissé le numéro 041 en cette période où tous les gouvernements, qu'il s'agisse des gouvernements centraux, qu'il s'agisse des gouvernements provinciaux, tous ces gouvernements sont déclarés démissionnaires. C'est qu'il est interdit en ce que les autorités prennent de grandes décisions comme celle-là. Voilà pourquoi nous dénonçons au moins cet état des choses et nous demandons à l'autorité provinciale d'annuler toutes les commissions d'affectation qu'il a signées en cette période.
Tous nos efforts pour avoir la réaction du gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala n'ont pas abouti.
Actualité internationale.
Au Mali, au moins 31 personnes ont été tuées hier mardi et 10 autres blessées lorsqu'un chauffeur a perdu le contrôle d'un bus de passagers dans le sud du pays, a annoncé le gouvernement malien. Les syndicats nigériens du travail ont entamé hier mardi une protestation de deux jours à Lagos. Les manifestants en colère menacent de fermer des services clés en représailles à l'inflation galopante et les affres d'une économie au bord de l'asphyxie.
L'invité.
L'invité de ce journal est le directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. Charles Balagizi parle de la sécurisation du matériel de surveillance des volcans installés dans différents quartiers et qui sont souvent vandalisés par les inciviques. Il prévient aussi sur le danger d'asphyxie et le risque lié à la concentration du gaz carbonique à certains endroits autour des camps de déplacés. Charles Balagizi s'entretient à ce sujet avec Sifa Maguru.
Bonjour messieurs.
Bonjour madame la journaliste.
Est-ce qu'il y a d'autres défis en dehors des aspects techniques? Est-ce qu'il y a d'autres défis enregistrés ça et là par rapport à votre travail?
Oui, il y a des défis et les défis c'est par rapport à la population. Donc on a certains senseurs, n'est-ce pas, qui sont comme des petits boîtiers, n'est-ce pas, qu'on déploie pour mesurer la température ou bien la déformation du sol et la plupart des fois c'est vandalisé. Et donc, je souhaite encore, à travers votre micro, n'est-ce pas, et rappeler la population de Goma que ce matériel, c'est pour nous sécuriser, nous tous. Et donc, ils sont appelés à les protéger, parce que plus ce matériel est fonctionnel, n'est-ce pas, plus nous avons des informations, des qualités à fournir, n'est-ce pas, à la population.
Est-ce que la population les identifie bien? Ça oui. Ressemble à quoi? On les vandalise expressément ou comment?
Oui, c'est connu, nos sites de mesure, nos stations sont connues, n'est-ce pas? Nous avons eu à discuter avec des points de relais qui peuvent être comme des chefferies et tout ça, pour essayer un peu de vulgariser, donc c'est connu. Et donc, on rappelle encore une fois que ce matériel est fait seulement pour surveiller le volcan. Il ne sert à rien d'autre. Ça, c'est le message que j'aurais aimé faire passer à la population, n'est-ce pas? Et aussi dire que, voilà, il y a des populations qui sont déplacées, on est des cœurs avec eux. Et donc, on a des endroits dans Goma où la concentration des gaz est très élevée, n'est-ce pas? Ce que nous appelons communément les mazoukou. Et donc, nos frères qui se sont déplacés devraient tirer beaucoup d'attention, n'est-ce pas? Ne pas se promener en dehors des zones qui sont indiquées dans les camps, parce que nous travaillons avec les partenaires, les collègues qui travaillent dans les camps pour donner une vie plus ou moins acceptable pour nos frères. Et donc, on a fait un travail d'identification des sites qui sont propres et ceux qui sont impropres, n'est-ce pas? Et donc, on invite tout le monde, n'est-ce pas, à respecter ces délimitations pour des raisons de sécurité, parce que c'est quelques minutes seulement et on est vraiment fauché, on perd la vie.
Brièvement, pour ceux qui n'ont aucune idée, c'est où, par exemple, par rapport à la ville de Goma, où sont les endroits qui sont dangereux par rapport au gaz?
Par rapport au gaz, on a la région de Boulengo, n'est-ce pas, et Lac Vert, qui sont des endroits qui ont des concentrations de gaz les plus élevées, qui sont mortelles, n'est-ce pas? Dans le temps, on avait fait des panneaux de signalisation, mais ça avait encore été vandalisé. Mais on a fait quand même de nombreuses campagnes de sensibilisation. On va encore les relancer parce que il y a des populations qui sont nouvellement déplacées vers la région de Goma et ses environs, et donc qui ne sont pas au courant de cette situation. Et donc, on invite tout le monde à nous aider, n'est-ce pas? Une parole peut sauver une vie, n'est-ce pas? Quand nous avons notre frère qui vient de Masisi, qui vient de Rutshuru, qui vient de Sake, de Kiroche, enfin, de partout, qui arrive dans une région, tout le monde peut faire passer le message. Et d'ailleurs, on était sur le terrain, je crois, mardi, et on a trouvé qu'il y avait des gens qui venaient de Sake, qui se sont installés à proximité de ce site. Et on n'a pas traîné, on a informé les partenaires qui sont impliqués pour essayer un peu de prendre des mesures. On a également le coin de Kieshero, n'est-ce pas, où vous pouvez trouver aussi de petites poches des concentrations de CO2 assez élevées. Et donc les concernés sont informés, on y passe régulièrement pour faire des mesures et donc que les gens puissent tirer beaucoup d'attention. Si vous avez un visiteur, vous avez accueilli un familier qui vit chez vous, qui vit chez le voisin et tout ça, surtout les enfants. Des grâces, il faudrait leur montrer les points les plus dangereux de manière à ce que chaque vie compte.
Merci beaucoup, monsieur le directeur.
Je vous en prie, madame.
Okay. Notre invité, le directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma, Charles Balagui, s'entretenait avec Sifa Maguru. Fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.